Radio Tamani, voici nos informations en français.
Vous écoutez Studio Tamani, il est 8h à Niono, même heure partout au Mali. Bonjour et bienvenue, voici le sommaire de cette édition matinale. Les populations des communes de Koro, Djabali et Dogofri se disent terrifiées par la recrudescence de l'insécurité. Les attaques des hommes armés visent de plus en plus les véhicules de transport dans ces zones. À Bakas, les oiseaux granivores font des ravages dans les champs de mil. Des agriculteurs de la zone inquiets estiment que c'est un phénomène qui se produit chaque année. Dans ce journal, nous faisons un zoom sur Al-Bacha ou encore la célébration du divorce dans certaines communautés tamachèques. Pour des traditionnalistes, cet événement montre le divorce sous un autre angle. Le point complet de ce titre dans un instant avec Assidou Kanté, mise en onde Mamadou Ouattara. Bonjour et bienvenue au centre du Mali. L'insécurité ne faiblit toujours pas. Des véhicules ont été la cible d'attaques le week-end dernier par des hommes armés non identifiés dans les communes de Koro, Djabali et Dogofri. Ces hommes armés interdisent également l'accès des foires hebdomadaires au forain. Le point avec Juliette Koulibaly.
Cette semaine encore, de multiples attaques ont ciblé des localités dans le cercle de Niono. Ce lundi 25 octobre 2021, des présumés djihadistes ont tenté de saboter le pont entre Dogofri et Djabali. Depuis l'attaque survenue le week-end dernier contre le car de transport en commun à Djabali, c'est la psychose totale au sein de la population. 10 passagers avaient été enlevés, dont 5 libérés plus tard. 2 ont réussi à s'échapper et les 3 autres sont toujours dans les mains des assaillants. Ces attaques précèdent à celle de Marebougou dans le cercle de Djéné où il y a eu des affrontements entre Donso et présumés djihadistes la semaine dernière. Les sources locales évoquent 40 à 50 personnes tuées dans les rendez Donzo. Du côté des chauffeurs et conducteurs locaux, on se dit préoccupé par les attaques sur les axes routiers. Le syndicat national en charge des transports affirme avoir demandé à l'État de renforcer la sécurité sur les routes.
Les autorités locales à Dogofri interpellent également les autorités à renforcer les patrouilles dans cette zone en proie à l'insécurité. Pour cet habitant qui a requis l'anonymat, seule la collaboration entre les populations et les forces de sécurité permettra de déjouer les actions de ces présumés djihadistes. Il est joint par Juliette Koulibaly.
Tous ces actes ont eu lieu avant le mardi. À cause de ça, les forains qui venaient à Dogofri chaque mardi ont eu peur. Donc, pour vous dire que toute la journée du mardi a été perturbée. Malgré cette situation, des groupes d'autodéfense et les forces armées du Mali sont mobilisés sur la route. Ils ont pu réparer les trous qui étaient visibles. Actuellement, ils sécurisent la voie nuit et jour. Ils s'engagent ensemble à faire de patrouilles à tout moment. Cela nous arrange beaucoup. Je demande à la population d'être sereine et vigilante et de donner les bonnes informations, car les mauvaises informations sont pires.
Donc, population qui agresse.
8h passées de 3 minutes, réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Le syndicat des banques et établissements financiers du Mali, SINABF, a entamé hier une grève de 72 heures. Cette grève entraîne des conséquences économiques graves sur l'économie nationale, estimée à une dizaine de milliards de francs CFA par jour, expliquent certains économistes. Selon eux, les deux parties doivent rapidement renouer le dialogue pour un compromis afin de permettre à l'économie de souffler. Ibrahim Mariko, économiste au Centre d'études stratégiques Séné, joint par Imirana Kilumeika.
Vous savez que nous sommes en fin du mois, donc c'est le moment des paiements, c'est le moment des règlements. Donc sûrement la grève aura un impact très dur pour une économie assez fragile comme le Mali actuellement. C'est-à-dire les conséquences n'est pas seulement économique, mais c'est la crise sociale parce que ceux qui n'auront pas accès vraiment à leur montant ou à subvenir aux besoins familiaux et autres. Donc toutes ces estimations, quand on va l'évaluer en monétaire, ça tournera autour des dizaines de milliards par jour, il faut le dire, parce que nous sommes dans un pays enclavé et nous communiquons avec l'extérieur vraiment à travers les banques, que ce soit les banques commerciales ou la banque centrale. Bien, il faut se dire que si la grève continue ainsi, c'est pour toujours fragiliser vraiment la période de transition.
Autre sujet, des oiseaux granivores ont fait des ravages dans plusieurs champs de mil dans le cercle de Bankas. À chaque passage de ces prédateurs dans les champs, ils laissent derrière eux que des tiges et des épis vides, déplorent les agriculteurs. Cependant, ils précisent que le phénomène se produit chaque année en mi-octobre. Le chef secteur de l'agriculture de Bankas dit avoir remonté l'information aux autorités. Les détails avec Aïssata Diarra.
Les oiseaux ravagent nos champs. Il y a de cela plus de 4 ans, s'est plaint Adama Togo, agriculteur à Pissa dans le sec de Bankas. Il affirme qu'à la date d'aujourd'hui, environ 60 champs de mil ont été touchés au passage des oiseaux granivores dans la localité.
C'est devenu une habitude. Dès que les oiseaux viennent, on cherche des gens pour nous aider à camoufler nos cultures. S'ils partent et ne trouvent rien à manger ailleurs, ils reviennent toujours vers les céréales qu'on a battues. Il n'y a pas un seul village ici qui est épargné. Nous sommes très inquiets. Ça a dévasté plus de 60 champs ici.
Ces propos sont corroborés par le chef secteur agriculture des Bankas. Toutefois, il dit être limité dans les interventions à cause de l'insécurité. Alaï Guindo.
Compte tenu de l'insécurité, nous ne pouvons plus aller faire les traitements. Nous avons dénombré près de 27 dortoirs dans la commune de Baye. C'est tout au long du fleuve Sourou. L'accès est difficile. J'ai eu à faire un rapport circonstancié, remonté au niveau régional.
Ces prédateurs ont fait aussi des ravages dans les villages de Baye, Wankoro, Sodon, tous situés dans le sac de Bankas. Désespérés, les cultivateurs demandent aux autorités de leur venir en aide afin de prévenir une insécurité alimentaire dans le cercle.
On en vient à notre dossier du jour, le Albacha, où la célébration du divorce est une pratique ancestrale dans certaines communautés tamachèques. Un événement dans ces milieux car il annonce une femme libre pour que les nouveaux prétendants se manifestent. Quelle est la portée de cette tradition? Garde-t-elle encore son sens? Fatih Yattara nous amène à la découverte de cette culture tamachèque.
Khadija Walet Mohamed est une femme de 30 ans. Divorcée après un premier mariage, elle fête son albacha. Elle vient de donner son accord à son futur conjoint.
Tout est fait, prêt pour aller à l'essentiel. J'aime ma culture, je suis heureuse et contente.
C'est un événement important, explique le traditionnaliste Wanti Samaki. Pour lui, il montre non seulement que le divorce n'est pas une calamité et avise aussi les potentiels prétendants de la femme divorcée.
À cette occasion, des artistes sont invités. On chante, on danse, des plats spéciaux sont préparés et distribués. Tout le monde est content. C'est réellement une grande fête.
La procédure de Albacha se déroule en deux séquences, affirme notre interlocuteur.
Le premier rendez-vous de Albacha, c'est pour annoncer que la femme est divorcée et qu'elle est libre. Le second, c'est le moment décisif où elle peut recevoir une éventuelle candidature pour se remarier.
Généralement, c'est au cours de cette deuxième étape que les éventuels intéressés extériorisent leurs intentions d'épouser la femme divorcée. Ceci témoigne de l'importance de la femme en question dans notre milieu, s'exclame les traditionnalistes.
On ne peut même pas compter le nombre de femmes qui trouvent un mari dans l'assemblée même. Et c'est au fait ça l'objectif premier de cette coutume.
Cependant, cette pratique serait en voie de disparition, regrette des traditionalistes. Ils expliquent cela par l'effritement des mœurs et la mondialisation.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
Actualité régionale, une réunion préparatoire de la rentrée scolaire 2021-2022 s'est tenue mardi à la Maison du Peuple de Bafoulabé. Au cours de la rencontre, les autorités scolaires ont fait le point des résultats du DF 2020-2021 et les perspectives pour la nouvelle année. Le manque de personnel enseignant et la situation de l'école de Segodunga, toujours fermée, ont été également débattus. Les autorités scolaires ont demandé aux enseignants grévistes de faire le bilan de l'année et d'accepter de faire des concessions pour trouver un compromis avec le gouvernement. Les activités de la révision des listes électorales se poursuivent dans le cercle de Yoroso. À la date du 22 octobre 2021, 63 radiations, dont 43 hommes et 20 femmes, ont été effectuées, selon le président de la commission locale. Il indique aussi que 6 transferts ont été effectués. Ainsi, le cercle enregistre à ce jour 10 095 potentiels électeurs, dont près de 4 800 femmes. Rappelons que ces opérations prendront fin le 31 octobre prochain. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi, mais vous pouvez écouter toutes ces informations sur notre site web au www.sudetamani.org ou appeler gratuitement sur Viamo au 37 321. Je vous laisse en compagnie de Idrissa Sako pour la présentation de cette édition à Bambara, mais avant tout de suite, la question A. Plusieurs Plusieurs personnalités publiques ont été arrêtées ces dernières semaines dans le pays. Ces arrestations s'inscrivent dans le cadre de la lutte contre la corruption et de la malversation financière selon les autorités actuelles. Ces procédures judiciaires sont-elles légales? Les défenseurs des droits des hommes estiment que non. À cet effet, la Commission nationale de droits de l'homme, CNDH, alerte sur des risques de violation de la liberté d'expression et des acquis démocratiques. Maître Aguibou Boiré est le président du CNDH. Il répond aux questions de Draman Meika.
Quand on parle d'arrestation arbitraire, ça veut dire une arrestation qui est faite hors du cadre légal. Parce que la Constitution, qui est la loi fondamentale du pays, qui le dit clairement, seuls les juges de l'ordre judiciaire peuvent émettre des mandats de dépôt. Toute autre arrestation intervenue hors de ce cadre ou hors de l'autorisation de la justice ne peut être qualifiée que d'arrestation arbitraire. Or, Dieu seul sait qu'il y en a eu ces derniers temps, parce que nous avons écrit officiellement aux autorités pour dénoncer un certain nombre de cas d'arrestation arbitraire. Parce que ce que les gens doivent comprendre, ce n'est pas pour défendre X ou Y, c'est pour défendre les droits de toute personne humaine qui résident au Mali, y compris ceux qui sont au pouvoir. Donc, nul n'est à l'abri de la violation de ces droits.
Alors, il y a certains qui disent que les différentes arrestations qui ont été faites ces derniers temps sont, entre autres, des arrestations politiques.
Bon, en fait, nous nous méfions des qualificatifs puis des interprétations. Je m'en tiens à la qualification de l'arrestation arbitraire. À partir du moment où la justice n'a pas ordonné une arrestation, elle devient arbitraire. Si la justice ordonne des arrestations également, il revient aux avocats d'éplucher les dossiers, d'analyser les fonds du dossier. La justice aussi est astreinte à un certain nombre d'obligations, tant nationales qu'internationales. Par exemple, la surpopulation carcérale, on peut se prononcer là-dessus. C'est des cas de violation des droits de l'homme. Il ne suffit pas d'émettre des mandats de dépôt, remplir les prisons et ne pas se soucier des conditions de détention de ces personnes.
En parlant de liberté d'expression, ne pensez-vous pas que nous sommes en train de régresser actuellement par rapport à cette loi ou cette règle fondamentale?
Il y a les risques d'atteinte au droit à la liberté d'expression, à la liberté d'opinion. Ça, c'est des situations très sensibles à surveiller de près dans un contexte de crise. Donc, le rôle des défenseurs des droits de l'homme, c'est d'être vigilant par rapport au respect des droits acquis des hautes luttes. La liberté d'opinion, la liberté d'expression sont vraiment des trésors à préserver au Mali pour qui connaît l'histoire récente de notre pays. Et le pays peut être gouverné, le pays peut être dirigé de main forte, mais sans qu'on porte atteinte à ces libertés fondamentales qui sont consacrées dans la constitution du Mali et dans la charte de la transition.